Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Autrefois, on nommait ces endroits des gares ou des stations de train, de métro ou de RER. C'était déjà quelque chose que ces lieux de passage, romanesques, dramatiques, incarnés avec leurs trains ratés, leurs retrouvailles, leurs habitants mystérieux, les salles des pas perdus, les restaurants mythiques comme le train bleu, les histoires qui font rêver ou pleurer. Maintenant, on utilise le mot « hub » pour désigner ces points de connexion entre différents transports et activités, ces zones d'interface, de croisement entre des habitants, des formes de communication et de travail, un peu sur le modèle des commutateurs électriques, avec des êtres humains comme des fourmis disciplinées qui poursuivent chacun leur chemin et leurs tâches. C'est ainsi que notre productrice Élise Andrieux, qui vit en dehors de Paris depuis quelques années, traverse régulièrement l'immensité de la station, ou plutôt du hub de RER Châtelet-les-Halles. Avec une grande régularité, elle s'arrête à la même enseigne pour y prendre un café à emporter. Et puis un beau jour, elle a cessé de filer et s'est mise à parler avec les vendeuses et vendeurs de croissants chauds derrière le comptoir. Nabila et Lucie lui ont raconté leur histoire, tant et si bien que vous ne passerez plus jamais dans le hub de Châtelet sans une pensée pour elle. Tout de suite donc, des travailleuses du matin pour célébrer le travail et les droits des travailleuses par Élise Andrieux.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Madame, bonjour.
Un espresso et
un croissant. Un espresso et un croissant pour madame. Alors, 2,30€, s'il vous plaît, madame. Hop là. Merci. Passez une bonne journée. Votre café, il est déjà là-bas, d'accord ? Au revoir. Là, je vois des gens qui vont vite, là. Il faut qu'ils prennent leur train. Il y a de tout, en fait. Ici, si vous vous arrêtez, c'est juste 5 minutes et que vous regardez les gens passer, vous verrez qu'il manque rien. Et il y a moi qui travaille ici. Voilà.
Moi je m'appelle Nabila, j'ai 25 ans et ce qui m'a emmené à vendre des croissants, des viennoiseries dans la gare de Châtelet-les-Halles, c'est une tarte aux framboises que j'ai vue dans une vitrine et qui m'a paru super belle. Du coup, en connaissant la personne qui travaillait là-bas, on a gentiment rigolé. Et il m'a proposé, juste pour voir, de me mettre côté vendeur et de servir un client. Ce que j'ai fait et j'ai adoré. Du coup, j'ai eu le droit à ma tarte aux framboises et à un travail que j'aimais. Et voilà, tout simplement, je suis arrivée comme ça par pur hasard et par pure gourmandise. Chaque matin, il faut se réveiller très tôt. Pour moi, c'est 4h30, vu que je suis du service du matin. C'est un petit peu compliqué de se réveiller tous les matins en étant content d'aller au travail. Mais quand on y arrive et qu'on a tout mis en place, les pains au chocolat chaud bien brillants, les croissants, les tartes aux framboises, qu'on a tout posé et qu'on est prêt à ouvrir, là, on se dit « bon, bah, ça va être une bonne journée et les gens vont être contents ». Et moi, je kiffe donner ce petit moment aux gens, de dire... ils vont au travail contents, grâce à un pain au chocolat. Ou un café, le fameux café du matin, surtout dans les gares. En fait, quand on voit les gens arriver et qu'ils prennent leur café, on les entend faire ce petit « ah ». Vous les attendiez votre café, du coup, voilà. Le petit « ah ». Le petit « ah », c'est comme moi, quand je rentre chez moi, j'enlève mes chaussures et je fais « ah ». Ça calme les gens. Pour moi, c'est énorme. J'aurais jamais pensé qu'en tant que vendeuse de viennoiserie, j'aurais apporté aux gens autant de bienfaits qu'un café et un croissant. Parce que c'est entre le train qui arrive dans 4 minutes et que je dois courir pour aller au travail, je suis déjà en retard. Et puis ils reviennent le lendemain et ils vous disent merci et puis ils vous disent bon courage. Et on fait partie de leur vie dans le sens où leur trajet travail-maison. En plein milieu, il y a ma petite tête avec mon petit pain au chocolat et mon croissant, donc voilà.
Bonjour madame. Coca zéro, normal ou chérie?
Normal.
1,80€ s'il vous plaît madame. Est-ce que vous voulez une paille madame? Voilà pour vous.
Bonne journée.
C'est gratifiant d'un côté, même si c'est un travail qui est très fatigant. Le fait de se réveiller très tôt le matin, de prendre les transports, de voir des choses difficiles de la vie avant d'arriver au travail. Moi, je sais que là où je travaille, je viens le matin, je vois beaucoup de personnes sans abri devant mon magasin et je suis obligée de leur demander de se lever pour que je puisse ouvrir. Et du coup, c'est triste de rentrer dans son magasin et de voir ça parce que je suis dans l'obligation de les faire quitter le lieu. Mais c'est un peu difficile. Moi, la misère, je l'ai vue, je l'ai connue. Elle m'a beaucoup forgée, j'en suis fière en fait. Parce que je sais ce que c'est, la misère. J'y étais. Mon papa a eu le cancer du poumon. Et c'était le seul qui travaillait dans la famille. Donc il y avait ma mère, mon père, mon grand frère qui avait 3 ans de plus que moi. Et moi. J'avais 6 ans quand mon papa a perdu son travail. Et à partir de ce moment-là, c'était très compliqué parce que c'était... Mon papa était venu en fait en tant qu'immigré pour la reconstruction de certains bâtiments en France. Mon papa est marocain, ma mère aussi. Et mon papa habitait avec ses collègues de travail. Donc nous en fait on était chez des gens de la famille. Du coup à partir du moment où il a perdu son travail, on n'avait plus de logement. Les gens de la famille c'est bien, mais au bout d'un moment eux aussi ils ont des choses à faire de leur vie. Du coup on se sent de trop. Et puis après, il y a la fierté aussi, enfin, je veux dire, on est obligé de partir. Mon papa, il était très malade, il fallait qu'on reste avec lui à l'hôpital. Maintenant, qui dit plus logement, dit visiter des greniers, demander aux gens de nous ouvrir leurs portes. Des greniers, je me rappelle, c'est dans le 12e arrondissement de Paris. Et il y avait des jours où oui, on arrivait à dormir dans des greniers, il y avait des jours où on dormait pas, enfin, on était dans les transports... C'était un petit peu compliqué, mais disons que je suis bien tombée avec ma maman parce qu'elle nous a toujours bien habillés, bien coiffés devant les gens. Je veux dire, si jamais il y avait un goûter à l'école, ma mère elle faisait toujours en sorte d'aller acheter un truc pour faire semblant. Et puis j'étais dans un beau quartier quand même, j'étais à Vincennes. Mon collège était à Vincennes. Et moi, c'était hors de question que je dise à mes camarades de classe que j'étais à la rue. Jamais. Jamais de la vie. J'avais peur de... Enfin, j'avais pas peur, mais vous savez, les enfants, ils sont méchants sans s'en rendre compte. Je veux dire, un enfant, il a envie de vous dire que vous êtes moche, il va vous dire que vous êtes moche. J'avais pas envie que les gens sachent. Et personne l'a su. Je faisais semblant de prendre le bus. Je me rappelle, mon papa, il m'a toujours emmené à l'école, il m'a toujours ramené de l'école. Et du coup, j'arrivais jamais en retard. Et ça, c'est toujours dans ma vie actuelle, grâce à la rue. J'arrive jamais en retard, jamais j'arrive en retard. Même pour voir mes amis... Si on me dit rendez-vous à 13h, je suis toujours là à 12h30. Parce que c'est un truc que j'ai appris dans la rue et je peux pas arriver en retard. Ça a duré 5 ans, jusqu'à l'âge de mes 11 ans. Et après, moi, je suis rentrée en sport-études, en internat. Et du coup, moi, j'étais tranquille. Moi, je restais à l'école pour manger, pour dormir, pour me laver. Enfin, c'était un internat, donc moi, ça m'arrangeait. Et puis mon frère a eu un petit accident de voiture, rien de grave, mais en fait c'est parce qu'on jouait à chat avec mon frère et il essayait de courir après moi, sauf que lui il a pas regardé la route et voilà. Donc il a atterri en dessous de la voiture, mais on l'a vu tout de suite sortir en fait en dessous de la voiture, vu que c'est un gros 4x4 bien élevé, il a rien eu quoi. Il s'avère qu'à l'hôpital, on a appris que la personne qui était conducteur de cette voiture... était le directeur des HLM de Paris et il nous a demandé ce qu'il pourrait faire. Il pourrait faire n'importe quoi pour se faire pardonner. Et puis ma maman lui a demandé si il pouvait nous trouver un appartement. Et du jour au lendemain, on a eu un F5 sur Paris. Alors là, c'était Versailles pour nous. Alors quand on est rentré dans l'appartement pour la première fois, C'était énorme en fait, parce qu'il y a un long couloir et de chaque côté des couloirs il y avait des portes de partout, et on s'est dit waouh, on va tous avoir une chambre. Nous on demandait une chambre pour quatre et on a eu une chambre par personne, et c'était énorme. La cuisine elle était géante, la salle de bain, on avait une baignoire. Je sais que quand j'en parle à mes amis, ils me disent non mais à Paris c'est compliqué d'avoir une baignoire, et moi j'en avais une. Enfin c'était le rêve en fait. De pouvoir se laver chez soi, de manger chez soi, d'inviter les gens chez soi, c'est... On nous a offert ça, quoi. C'était fou. On était vraiment heureux et à partir de là, tout a commencé. Ma maman entrait en travail, mon papa allait mieux, j'ai eu des petites sœurs. Et voilà, après, tout s'est enclenché tout seul, en fait.
Attention, en raison d'importants travaux, la station Châtelet, sur la ligne 11, est fermée. Cette station reste toutefois desservie par les autres lignes. Par conséquent,
avant, c'était très difficile pour moi d'expliquer à un mendiant que je ne pouvais pas lui donner un croissant. Ça arrive par exemple qu'on fasse tomber un croissant par terre, qu'on le ramasse et qu'on le jette, parce qu'on ne peut pas le vendre bien évidemment. Et du coup, moi, ça me rend triste. Je me dis, mais pourquoi je ne ferais pas un petit sac et puis après je donne aux gens? Mais on n'a pas le droit. Faut comprendre en fait. Moi, au début, je ne comprenais pas pourquoi on n'avait pas le droit de donner à quelqu'un à manger parce que le croissant était tombé par terre. Je veux dire, par terre, on nettoie toutes les 20 minutes, donc c'est propre. Et du coup, je l'ai fait. J'ai donné à une personne et il y en a 20 qui sont venus et c'était plus du tout gérable. Il fallait que j'explique à ma patronne que c'était de ma faute. Donc il fallait que je lui explique que j'ai donné un sandwich à un SDF et que bah, le lendemain, il y en a 20 qui veulent des sandwichs. Donc maintenant, je sors ma carapace de roc et je dis non. Je ne mets même pas d'émotion. Avant, je mettais de l'émotion. Non, je suis désolée, on ne peut pas, vous savez. Maintenant, je... Stop, non. Je dis non. Ils s'en sortiront comme ils pourront. Alors que j'aimerais bien même leur acheter à chaque fois, mais je dis non. Je peux plus, parce que moi aussi j'ai envie d'évoluer dans mon métier et d'ouvrir peut-être mon propre magasin. Donc je me dis, je peux pas au nom d'un sandwich me mettre moi de côté ainsi que ma carrière, donc non. Je leur souhaite de tout cœur d'avoir la chance que j'ai eue. Maintenant, je peux les comprendre qu'ils soient très demandeurs. On est dans une gare où il y a beaucoup d'afflux de voyageurs, il y a à peu près plus de 500 000 personnes par jour. Donc c'est beaucoup. Vous imaginez si les 500 000 voyageurs, ils donnent de l'argent? Même un centime. C'est énorme l'argent qui circule ici. Et s'ils ont trouvé cette gare-là et qu'ils y restent tous les jours, parce que c'est des habitués, hein, qui se battent pour leur place, parce qu'une place à Châtelet, c'est une bonne place, et il faut pas la toucher, et puis il faut se défendre pour avoir la place. Donc, je veux dire, un SDF ici, il mange correctement. Ne vous inquiétez pas pour lui, hein. Madame, bonjour. Il y en a plein qui répondent pas quand on dit bonjour. Ça, c'est devenu normal.
C'est moi qui vous ai parlé.
J'adore la gare de Châtelet. Je l'aime trop. Je changerai pas de gare. Tout ce qui s'y passe, les bonnes choses comme les mauvaises, les grèves, comme les centaines de milliers de personnes qui passent, les afflux de voyageurs. Enfin, je trouve ça trop beau. J'adore le fait d'aller vite pour ne pas rater son train. Je déteste quand il y a quelqu'un qui marche à deux à l'heure dans la gare. Ça, c'est un truc qui m'énerve, voilà, personnellement, alors que le monsieur veut juste prendre son temps, hein, et veut regarder la gare. Moi, il faut que j'aille vite dans la gare. Il faut être rapide et efficace. Moi, je connais toute la gare par cœur. Tous les trains, toutes les stations, je les connais par cœur. C'est un labyrinthe. Il y a énormément de mélanges. Il y a de tout. Il y a même des gens que vous n'aurez jamais pensé voir dans votre vie. Il y a des gens qui sont déguisés, juste pour le fun, parce qu'ils sont entre amis. Il y a des gens tout nus, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a des gens religieux, il y a des gens qui ne le sont pas. Il y a de toutes les couleurs, tout. Enfin, je trouve ça trop beau. Châtelet, c'est la gare écoute, il y a tout ce qu'il faut là où il faut. Depuis un an et deux mois, je fais toujours la même chose depuis. Après, j'aimerais bien évoluer dans là où je travaille, mais toujours rester dans une gare. Parce que j'apporte plus de plaisir à vendre un croissant dans une gare, avec un café, et que mon travail est plus difficile, mais je l'aime quand même. Je compte pas aller dehors, rester avec les souris. Oui, il y a plus de souris que de voyageurs dans les gares, je sais pas si vous êtes au courant. Ouais. Ah, je vois des souris tous les jours. C'est mes amis. On pourrait pas rentrer dans des gares tellement ce serait sale si les souris n'étaient pas là pour nettoyer. Waouh! Il est grand! Christelle! Christelle! Regarde! Le mec, il est géant! Vite! Dans l'escalier! Tu l'as pas vu! Waouh! C'était un géant! C'était Hulk qui vient de passer. Je vous ai dit, il y a de tout ici. T'as vu? Ah ouais, c'est énorme. Et ça, j'avais pas vu encore. Je vais l'enlever de ma liste. Ça y est, j'ai vu un géant. Il dépassait 2 mètres, non? Si, il était grand quand même. Hein. Waouh. Mais lui, par contre, le pauvre, il doit galérer dans les transports en commun. Ah ouais, non, lui, le pauvre, là... Bonne journée.
Je rappelle qu'il aura pour son arrêt Paris-Gare du Nord. Chers voyageurs, soyez patients pour laisser descendre avant de monter. Attention à la fermeture des portes.
Chaque fois on passe devant le métro, on sent l'odeur.
Nous, on est encore plus.
Je suis scandalisé.
C'est
scandaleux.
C'est inadmissible. Vous ne savez pas à quel point on est torturé ici.
Tous les jours, je prends le métro, je me retrouve avec cette situation. Comment ça fait?
Vous êtes super fort.
C'est mon estomac qui craque.
Vous en prenez pas là?
Non, je fais attention à ma ligne.
Bon courage.
Les gens, ils s'arrêtent. Ils viennent ici à cause de l'odeur, du sucre, la vanille. Et même s'ils sont sur le quai pour prendre le train, parfois ils ratent leur train pour venir voir c'est quoi cette odeur qui les attire. Moi c'est Lucie. Je travaille dans une gaufrerie, le niveau -3, là où on prend les RER en descendant. Alors comment je suis arrivée ici? Il y a 8 ans j'étais dans mon pays, en Iran. J'ai rencontré un jeune homme, très beau. Qui était perdu, qui cherchait son adresse. J'étais en charme. Je l'ai aidé. Au début, je l'ai dragué. Du coup, je faisais tout voilà, pour qu'il boit. Du coup, lui, il a eu le coup de corps. Et il a demandé mon numéro. On est resté en contact tout le temps parce que voilà, j'étais une jeune fille et que j'avais rien d'autre à faire. C'était les vacances. Du coup, ça, nous, dès qu'on voit des étrangers, on les aide souvent comme ça. Il est tombé amoureux de moi. Et il m'a dit qu'il m'aime, que je lui plais. Je lui ai expliqué qu'on ne pouvait pas se voir parce qu'il devrait retourner en France 3 semaines après. Du coup, on a cherché un peu le chemin. Il a vu qu'il faut vraiment qu'on se marie pour que je puisse le rejoindre en France. Et voilà, du coup, on s'est marié en 2 semaines et je suis venue en France 4 mois après. À cette époque-là, j'avais 18 ans. J'avais fini juste mon bac, j'étais à la première année de droit à l'université. J'étais en train de faire mes études, tout ça. J'envisageais pas du tout venir ici, en France. Je lui ai fait confiance, c'était une sorte, j'ai fait confiance à mon instinct. Et du coup, mes parents, ils étaient un peu... surtout mon père, il était pas très optimiste. Il avait peur, mais du coup, j'ai pu le convaincre vraiment que je prends toutes les responsabilités. C'est ma vie, je l'assume. Et voilà, je veux vraiment... Je vois pas personne d'autre qui me convient comme ça, aussi bien que ça, non.
to plan works, the station Châtelet on Metro Line 11 is closed.
Aufgrund von Bauarbeiten ist die Station Châtelet auf der Metrolinie 11 geschlossen.
Cada noche, del lunes al jueves, a partir de las 10 y cuarto de la noche.
Vu que j'avais jamais voyagé, c'était mon premier voyage dans un pays étranger, à l'aéroport. Quand je suis arrivée, franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'étais perdue. Pendant une heure au moins, je tournais à l'aéroport. J'étais tellement choquée que dès que je l'ai trouvée, j'ai pleuré. C'était vraiment le choc et le manque. Il m'a manqué aussi, du coup, j'étais contente de le voir. Et j'étais très, très, très heureuse. C'est très rare de voir des situations comme ça, un coup de foudre. Heureusement, ça se passe bien. 2 ans après, j'ai eu des enfants. Tout se passait bien, mais je ne travaillais toujours pas. J'ai appris la langue française en 2 mois intensifs. Et un jour, quand mes 2 enfants n'étaient pas à la maison, et que j'étais toute seule à la maison et vraiment rien à faire, je me suis tellement ennuyée que voilà, je me suis mise à la recherche d'emploi. J'ai cherché plutôt dans les ventes, parce que je suis très très forte dans les ventes. Je suis très sociable, du coup, j'arrive à faire vendre tout ce que je veux. Dès que je fais la pub sur quelque chose, c'est vendu. Mais j'adore, je sais pas. Et du coup, tout de suite après, heureusement pour moi, je l'ai trouvé, l'emploi qu'il me fallait. Et le produit que je vends, c'est tellement bon, c'est vraiment tellement bien que j'ai pas la honte de le vendre. C'est des gaufres molles à l'intérieur, croustillants à l'extérieur. C'est des gaufres de Liège. Et il y a des perles sucrées dedans, du coup, ce qui fait que ça garde son croustillant d'or à l'extérieur. Donc quand ils le mangent, ils sont contents. Et ça me fait hyper plaisir.
Premier, 26 avril, sauf le lundi 22. Une substitution par bus est en place entre les gares de Sartrouville et Sergy-Leau.
Madame, qu'est-ce qui vous ferait plaisir?
Je
voulais
vous demander comment ils sont vos gaufres.
À partir de 3 euros.
Un comme ça.
Une gaufre chantilly? Oui. Ça vous fait 4,20 euros, s'il vous plaît. La vôtre, elle sera prête dans 2 minutes. Ça vous va?
Ah, chauffez-le. Chauffez-le. Ouais.
En France, tout est beau. On peut pas dire qu'on n'aime pas. C'est juste que les gens sont vraiment très, très, très pressés. C'est difficile de voir sourire sur leur visage. C'est vraiment très difficile. Surtout maintenant que je travaille ici pendant 2 ans, on a des gens très mal polis. Ils viennent, ils ont les sourcils foncés. Voilà, je veux ça et c'est tout. Ils attendent qu'on les serre au plus rapidement alors que voilà, on est sur des produits fraîches. Il faut du temps. Et voilà, ils n'ont pas de patience. On dit patience. Voilà, je me corrige toute seule. Je comprends pas leurs problèmes. C'est vraiment très difficile de vivre parmi ces gens qui sont pas contents. Tout ce qu'ils font, ils sont pas contents. Tout ce qu'ils ont, je comprends pas qu'est-ce qui leur fait plaisir. Même avec une gaufre qui sourit pas. Non, ils sont très très méfiants. Surtout que la gaufre, ça coûte cher pour eux. Le prix de gaufre, ça leur fait mal. Même s'ils veulent se faire plaisir, le prix là, apparemment, ça leur... ça passe pas. Pourtant, la vie est courte. Hein. Je peux pas vivre dans les stress. Et les clients qui me stressent, je vois pas l'intérêt. Du coup, j'envisage de quitter ici, de ne pas rester ici. J'envisage de quitter même la France. Je vais partir au Canada, à Montréal, vu que mon mari il a trouvé des bons travail là-bas. Il est informaticien, il est dans l'informatique. Du coup, c'est pas très facile pour lui de trouver ici en France. Du coup, voilà, je vais aller là-bas et je vais continuer le même métier. Je vais me lancer dedans, puisque vu que j'ai l'expérience et vu que j'ai beaucoup de clients canadiens qui me demandent venez au Canada, je vais vendre des coffrets au Canada. Peut-être des crêpes et quelques spécialités iraniennes. Vu que je suis pâtissier à la base, voilà, je vais continuer la pâtisserie française, un peu mes spécialités, tout ça. C'est un pays apparemment qu'au niveau de sucrerie, ils sont pas très forts au Canada. Du coup, je vais continuer à faire ça, mais des trucs super simples. Voilà. Je vais encore changer de continent, mais à ce qui paraît, c'est que pour moi, peut-être ça va me plaire plus. Les gens là-bas ressemblent beaucoup à les gens de mon pays. Ils sont beaucoup plus chaleureux, malgré le froid qu'ils ont. Mon mari part dans pas longtemps et j'attends qu'il me donne des nouvelles, qu'il me confirme vraiment que ça lui plaît. Et là, je vais partir peut-être, je vais le rejoindre dans 4-5 mois. Il part dans une semaine, il part pour trouver tout, parce qu'on quitte tout ici. La maison, l'école des enfants, c'est vraiment, on laisse tout ici et on s'en va, on quitte la France pour les Français. On les laisse la France. Mais voilà, c'est comme ça la vie.
C'était Café Croissant, les travailleuses du matin, un reportage d'Élise Andrieux réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Nabila et Lucie, à Michaela, à Chou et à Angelis et Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Zoé Marie Roulier, notre stagiaire.